Le prince d'Aquitaine.
Ah, vous me retrouvez bien courroucé, Archambault, pour ce bout de route qui va nous mener jusqu'à Sainte-Menehould. Il est dit que je ne m'arrêterai point dans une grande ville sans y trouver quelques nouvelles qui me fassent bouillir le sang. À Troyes, c'était la lettre du pape. À Châlons, ce fut le courrier de Paris. Qu'ai-je appris que le dauphin, près d'une quinzaine avant de se mettre en route, a signé un mandement pour altérer une fois encore le cours des monnaies, dans le sens de l'affaiblissement, bien sûr. Mais par crainte que la chose ne soit mal accueillie, ça, il n'y avait pas besoin d'être grand devin pour le prévoir, il en a repoussé la promulgation jusqu'après son départ, quand il serait assez loin, à 5 jours de chemin, et c'est seulement le 10 de ce mois que l'ordonnance a été publiée. En somme, il a craint d'affronter ses bourgeois, et s'est fort longé comme un cerf. Vraiment, la fuite est trop souvent sa ressource. Je ne sais qui lui a inspiré cette peu honorable ruse, si c'est Braque ou Bussy, mais les fruits en ont vite mûri. Le prévôt Marcel et les plus gros marchands s'en sont allés tout en colère chanter matine au duc d'Anjou, que le dauphin a installé au Louvre en sa place. Et le second fils du roi, qui n'a que 18 ans et pas beaucoup de jugeote, s'est laissé arracher, pour éviter l'émeute dont on le menaçait, de suspendre l'ordonnance jusqu'au retour du dauphin. Ou il ne fallait pas prendre la mesure, ce pourquoi j'aurais penché, car elle n'est une fois de plus qu'un mauvais expédient, ou il fallait la prendre et l'imposer tout immédiatement. Il arrive bien renforcé devant son oncle l'empereur, notre dauphin Charles, avec une capitale où le conseil de ville refuse d'obéir aux ordonnances royales. Qui donc aujourd'hui commande au royaume de France? On est en droit de se le demander. La chose, ne nous y trompons pas, aura des suites graves, car voilà le Marcel devenu sûr de lui, sachant qu'il a fait ployer la volonté de la couronne, et soutenu forcément par la populace des bourgeois, puisqu'il défend leur bourse. Le dauphin avait bien joué ses états généraux, les laissant désemparés par son départ. Avec ce coup-là, il perd tout son avantage. Avouez que c'est décevant, vraiment, de se donner tant de soins, et de courir les routes, comme je le fais depuis une demi-année, pour tenter d'améliorer le sort de princes si obstinés à se nuire à eux-mêmes. Adieu, Châlons. Ah non, je ne veux point me mêler de la désignation d'un nouvel évêque. Le comte évêque de Châlons est l'un des 6 pères ecclésiastiques, c'est l'affaire du roi Jean, ou du dauphin. Qu'ils la règlent directement avec le Saint-Père. Ou bien qu'ils en donnent la fatigue à Nicolas Capocci. Il s'emploiera à quelque chose pour une fois. Il ne faut tout de même pas trop accabler le dauphin. Il n'a point tâche facile. Le grand fautif, c'est le roi Jean. Et jamais le fils ne pourra commettre autant d'erreurs que le père en a additionné. Pour me désencolérer, ou peut-être m'encolérer davantage, Dieu me pardonne de pécher, je vais vous conter son équipée au roi Jean. Et vous allez voir comment un roi perd la France. À Chartres, ainsi que je vous le disais, il s'était repris. Il avait cessé de parler chevalerie quand il eut fallu parler finances, de s'occuper de finances quand il eut dû s'occuper de la guerre, et de se soucier de vétille quand se jouait le sort du royaume. Pour une fois, il semblait sorti de sa confusion intérieure et de sa funeste inclination au contre-temps. Pour une fois, il paraissait coïncider avec l'heure. Il avait adopté de vraies dispositions de campagne. Et comme l'humeur du chef est chose contagieuse, ces dispositions furent mises en œuvre avec exactitude et rapidité. D'abord, interdire aux Anglais le franchissement de la Loire. De forts détachements, commandés par des capitaines auxquels ces pays étaient familiers, furent envoyés pour tenir tous les ponts et passages entre Orléans et Angers. Ordre au chef d'avoir toujours lien avec leurs voisins, et d'envoyer fréquemment messagers à l'armée du roi. Empêcher à tout prix la chevauchée du prince de Galles, qui vient de Sologne, et celle du duc de Lancastre, qui arrive de Bretagne, de se joindre. On les battra séparément. Et d'abord le prince de Galles. L'armée, divisée en 4 colonnes pour en faciliter l'écoulement, franchira le fleuve par les ponts de Main, de Blois, d'Amboise et de Tours. Évitez les engagements, quelles que soient les occasions qui s'en puissent offrir, avant que tous les corps de bataille ne soient rassemblés outre-Loire. Pas de prouesse individuelle, si tentante qu'elle puisse paraître. La prouesse, ce sera d'écraser l'Anglais tous ensemble et de purger le royaume de France de la misère et de la honte qu'il subit depuis de trop longues années. Telles étaient les instructions que le connétable duc d'Athènes donna aux chefs de bannière réunis avant le départ. « Allez, messire, et que chacun soit à son devoir, le roi a les yeux sur vous. » Le ciel était encombré de gros nuages noirs qui crevèrent soudain, traversés d'éclairs. Toutes ces journées, le Vendômois et la Touraine furent battus de pluies d'orages, brèves mais drues, qui trempaient les cottes d'armes et les harnachements, traversaient les chemises de mailles, alourdissaient les cuirs. On eût dit que la foudre était attirée par tout cet acier qui défilait. Trois hommes d'armes qui s'étaient abrités sous un grand arbre en furent frappés. Mais l'armée dans l'ensemble supportait bien les intempéries, souvent encouragée par un peuple en clameur. Car bourgeois des petites villes et manants des campagnes s'inquiétaient fort de l'avance du prince d'Aquitaine, dont on disait choses effrayantes. Ce long défilé d'armures qui se hâtait, quatre de front, les rassurait dès qu'ils comprenaient que les combats ne se livreraient pas dans leur parage. « Vive notre bon roi! Rossez bien ses ennemis! Dieu vous protège, vaillant seigneur !» Ce qui voulait dire « Dieu nous garde, grâce à vous, dont beaucoup vont tomber raides quelque part, de voir nos maisons et nos pauvres hardes brûlées, nos troupeaux dispersés, nos récoltes perdues, nos filles malmenées. Dieu nous garde de la guerre que vous allez faire ailleurs. » Et ils n'étaient pas chiches de leur vin qui est frais et doré. Ils le tendaient aux chevaliers qui le buvaient, cruche levée, sans arrêter leur monture.